Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Intégral Sport pour deux heures d'actualité, deux heures de sport, deux heures d'invités pour vous accompagner jusqu'à 20h. Il est fidèle depuis 7 semaines, c'est notre membre de la Dream Team champion de France qui, peu importe la discipline qu'il pratique, garde toujours son toucher. C'est Stephen Brun. Salut Stephen.
Salut Arnaud, bonsoir tout le monde.
Comment ça va?
En pleine forme, parce qu'il y a un programme chargé avec des beaux invités aujourd'hui.
Exactement,
Arnaud.
Programme copieux, alléchant ce jeudi soir. Nous reviendrons dans un instant sur la défaite hier de l'équipe de France féminine de football à l'Euro 2-1 contre l'Allemagne. Évidemment, on a suivi ça. Jeannot Rességuier et Anthony Reich, nos envoyés spéciaux, sont encore en Angleterre. On va faire dans un instant un bilan de cet Euro. On va parler de l'avenir de Corinne Diacre. On en parle tout de suite. Un invité exceptionnel dans demi-heure, comme on dit dans le Super Moscato Show, qui était là tout à l'heure avec les meilleurs moments que vous pouvez retrouver de 15h à 18h. Alors si je te dis, dernier pilote français vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Elle est facile celle-là.
Esteban.
Eh oui, Esteban Ocon sera avec nous dans une demi-heure, quasiment un an, jour pour jour, après sa victoire en Hongrie. Il est de retour sur le circuit de sa victoire, puisque ce week-end, c'est le Grand Prix de Hongrie en Formule 1. Il sera avec nous dans l'Intégral Sport en direct. Notre invité durant cette heure, c'est Florian Sotoca, l'attaquant du Racing Club de Lens. Lens qui entame sa troisième saison en Ligue 1. Sotoca, lui, ce sera sa quatrième saison dans le Pas-de-Calais. Le 32-16 est ouvert. Hashtag RMC Live pour vos réactions, vos questions à Stephen Brun ou nos invités. N'hésitez pas, c'est parti pour l'Intégral Sport.
Et c'est parti à l'instant même, le coup d'envoi donné par l'équipe de France.
Et l'occasion est trop belle pour aller chercher cette première finale internationale de l'équipe de France. Elles ont tellement buté par le passé.
Ah, attention à Aout qui va centrer. Oh le but pour l'Allemagne, l'inévitable Alexander Popp. 0 pour l'Allemagne. Gianni, allez, faut faire passer la puissance de la frappe de Gianni. Poteau et but. Poteau et but. Poteau et but. Poteau et le dos de la gardienne. L'équipe de France qui revient dans le match. C'est le premier but encaissé par l'Allemagne dans ce championnat d'Europe. Attention, dans la surface de réparation, la frappe à venir. Le ballon est dégagé par Mbok. Deuxième fois, le ballon encore une troisième fois par Mbok qui est venu se sacrifier. C'est pas fini encore avec Hout. La tête de Wendy Renard. Non, la tête derrière. La tête et le but de la part d'Alex. Alexandra Popp, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable.
Elle manque tous les ballons, Alexandra Popp, la capitaine de l'Allemagne qui est en train de peut-être crucifier l'équipe de France.
Et c'est fini, c'est terminé. L'équipe de France est éliminée en demi-finale de la, du championnat d'Europe par l'équipe allemande, par l'excellente Alexandra Popp qui réalise un doublé. L'équipe de France est battue par plus fort qu'elle, c'est l'évidence ce soir.
Et le rêve de devenir championne d'Europe s'est donc envolé hier à Milton Keynes, au plein milieu de l'Angleterre. Les Bleus ont cédé, mais c'est vrai, pas face à n'importe qui, à l'une des meilleures nations mondiales, double championne du monde ou encore vainqueur de 6 des 7 derniers Euros. L'Allemagne, ils sont encore en Angleterre et ne vont pas tarder à rentrer. Nos envoyés spéciaux pour cet Euro féminin, Anthony Reich, Jeannot Rességuier sont avec nous dans l'Intégral Sport. Salut messieurs.
Salut Arnaud.
Salut Arnaud. Bonsoir à tous. Bah, pour tout dire, on est à Saint-Pancras, hein, on attend le train.
Voilà, voilà, vous allez pour prendre le tunnel sous la Manche et revenir. Exactement. Du bon côté, on va dire, chez nous, chez vous en France. Jeune Anthony, est-ce que voilà, moins de 24 heures après cette défaite en demi-finale, la déception est toujours un sentiment qui prédomine chez nos Bleus?
Oui, oui, on a croisé beaucoup de joueuses parce que finalement il y en a certaines qui ont réussi à s'arrêter. C'était pas évident. Hein. On les a vues fondre en larmes, s'écrouler sur la pelouse. Je pense à l'image, par exemple, de Selma Bacha, de Sakina Karchaoui avec Grace Gayoro en pleurs et dans le nez dans la pelouse. Khadija Toudjani au bout du bout de la rencontre après le coup de sifflet final. Donc oui, de la déception, mais pas que, Anthony, de la frustration aussi.
Ouais, énormément de frustration. Les regards étaient assez fermés, très noirs. Hier, en zone interview, après la rencontre, moi, j'ai pu être en zone d'interview avec notamment Selma Bacha et Kadia Toudiani. Elles essayaient de tirer le positif, les joueuses tricolores, mais à l'image de la capitaine Wendy Renard, on sent qu'il y a un vrai goût d'inachevé et même plus que ça en fait, plus que de la frustration. Elles sont presque insatisfaites contre elles-mêmes parce qu'elles s'étaient fait ce pacte entre elles au début de la préparation, les joueuses de l'équipe de France, d'aller jusqu'au 31 juillet, d'aller à cette fameuse finale à Wembley, enfin une première finale internationale pour l'histoire de cette équipe de France féminine. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et il a manqué quelques petites choses dans cette demi-finale, c'est clair, c'est évident. L'équipe de France a été battue physiquement, l'équipe de France a encore une fois péché par son manque de réalisme et d'efficacité. Trop d'occasions manquées hier soir, et on le savait, il n'y en aurait pas autant que face aux Pays-Bas et cette trentaine de tirs, trentaine d'occasions face aux Néerlandaises. Et il a manqué une grande attaquante, il a manqué un peu plus aussi dans certains secteurs du jeu, Jeannot. Et il y avait presque de la colère en fait.
Et Anthony et Jeannot, bougez pas, on écoute Wendy Renard, la capitaine, défenseur central de l'équipe de France, sur ce sentiment de déception et ce goût d'inachevé.
On retient que les vainqueurs. Oui, on a franchi ces quarts de finale que vous nous avez tellement rabâchés. Mais après, on arrive en demi et tu perds. Donc, dans quelques années, on va pas parler de ce match. On va parler de soit les Anglaises, soit les Allemandes. Donc après, oui, c'est une déception. Et voilà, c'est pour ça, c'est pas facile.
Alors, il y a eu ce fameux mur du quart qui a été passé en battant les championnes d'Europe en titre, les Pays-Bas, Jeannot et Anthony. Est-ce qu'il y avait mieux à faire sur cet euro, et même, j'allais être plus précis, mieux à faire face à cette équipe d'Allemagne qui, quand on voit la partie d'hier, mérite largement sa victoire et semble quand même, dans plusieurs compartiments du jeu, supérieure à nos Bleus.
Oui, bien sûr, ça c'est clair. L'Allemagne est supérieure à nos Bleus sur plusieurs compartiments du jeu, mais il y avait mieux à faire. Alors, on pourra en débattre longtemps de cette fameuse, de ce fameux problème de jours de récupération. Il faut le rappeler, l'équipe de France avait deux jours en moins de récupération par rapport à l'Allemagne. Il y a un calendrier totalement déséquilibré dans cet Euro.
Et ça, une prolongation
c'est
en plus.
Une prolongation en plus. Donc, on a senti quand même un manque de jus hier soir à Milton Keynes de la part de l'équipe de France. Mais en fait, le gros problème de cette équipe de France, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus Marie-Antoinette Katoto devant à la pointe de l'attaque, ce système offensif était basé sur la présence de Marie-Antoinette Katoto, et les Bleus n'ont pas trouvé de solution alternative.
Ce point de fixation que Katoto a porté, que Melvin Mallard, la pauvre, on va pas non plus tomber sur elle, dans l'axe, ne peut pas, elle ne libérait pas les couloirs finalement.
Non, elle a essayé, hein. Elle a joué en appui, elle est venue chercher le ballon très haut, elle a voulu le remiser pour écarter, et à chaque fois il y avait la vigilance de la défense de l'équipe d'Allemagne. Après, Corinne Diacre, on l'avait vu modifier quelque chose en cours de match face aux Pays-Bas en faisant rentrer Bacha et en faisant rentrer Matteo. Là, elle a retenté quelque chose tout en maintenant le 4-3-3, et puis en fin de match elle est passée en 4-4-2 avec une deuxième attaquante, avec Oulémata Sarr, qui est venue épauler Diani, mais ça passait pas. Alors que la deuxième période, à partir du moment où l'équipe de France encaisse ce deuxième but, on a le sentiment qu'elle redonne l'espoir de pouvoir réagir comme elles l'ont fait en fin de première période après avoir encaissé le premier but. Sauf que à partir de ce moment-là, ça a manqué de précision.
Et puis le constat, même si Melvin Mallard a montré des belles choses lorsqu'elle a été titularisée lors de la phase de poule, elle a été intéressante, la jeune attaquante de l'Olympique. Mais quand le niveau s'élève, elle a encore besoin de s'affirmer. Et donc, du coup, l'équipe de France manque de densité offensive. Il manque des cartouches de niveau international lorsque Marie-Antoinette Katoto n'est pas là. Et ça, c'est un vrai problème. Et il n'y a pas un réservoir énorme à ce poste-là.
Alors, on y vient, mais on sait qu'il y a Eugénie Le Sommer qui est à la maison. Est-ce que, ça, on y pense quand on se dit le manque qu'il y avait aujourd'hui, défaut de Katoto pour cette grave blessure. Eugénie Le Sommer, Amandine Ory aussi au milieu de terrain, mais peut-être un secteur où on a moins souffert, hein.
Ah oui, mais tu sais que dans le sport et dans le football en particulier, on dit toujours l'inverse de ce qu'on a l'habitude de dire. Les absentes ont toujours raison quand ça gagne pas, par exemple. Alors oui, on va parler de Le Sommer en disant Eugénie Le Sommer aurait pu apporter quelque chose avec la blessure de Katoto. Déjà, s'il n'y avait pas eu la blessure de Katoto, on n'en parlerait pas de Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer, elle n'a pas fait non plus une énorme saison avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'elle aurait accepté de venir en doublure de Katoto, ou est-ce qu'elle aurait accepté d'être sur le banc? On ne sait pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Anthony, je ne sais pas si tu l'as. Après, Amandine Henry, oui, quand tu vois ce qu'elle a réalisé sur la fin de la saison, avec son but extraordinaire en finale de la Ligue des Champions face à Barcelone, la question, on lui a même posé, je lui ai même posé après le match, en lui disant, est-ce que vous pensez que ce but-là a été vu par la sélectionneur?
Qui était là ce jour-là?
C'est un autre problème. Le Sommer et Henry, c'est un autre problème.
Pour le cas Amandine Henry, clairement, tant que Corinne Diacre sera sélectionneur, la confiance étant rompue entre les deux femmes, Amandine Henry ne sera plus en équipe de France. La question est claire. Il n'y a même plus de débat. Donc, il faudra soit un changement de sélectionneur, soit une autre ère complètement.
Mais alors, est-ce qu'on est parti pour ce changement de sélectionneur, Anthony Jeannot? L'avenir de Corinne Diacre, aujourd'hui, Noël Le Graët a clairement fait comprendre dans un entretien à l'agence France Presse que Corinne Diacre devrait rester à la tête de la sélection féminine. Son contrat se terminait après 7 euros. Mais quand on lit les propos du patron de la Fédération française de football, en sachant aussi que ce soit côté masculin ou côté féminin, quand l'équipe de France fait dernier carré, généralement il n'y a pas de raison de changer.
Rappelons qu'on est dans la même situation pour Didier Deschamps avant la Coupe du Monde au Qatar, et qu'il n'a pas prolongé avant la compétition, que Corinne Diacre n'a pas prolongé avant la compétition, que au début du mois avant la compétition, chez nos confrères de Télématin, Noël Le Graët a tout simplement dit oui, on est parti pour continuer. On rappelle qu'elle est qualifiée pour la Coupe du Monde quand même. Il reste 2 journées et elle est qualifiée pour la Coupe du Monde dans moins d'un an maintenant, le 20 juillet 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le côté sportif. Après, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Ils vont se voir, ils vont se parler, ils vont évoquer bien évidemment le contrat. Ce contrat, c'est la Coupe du Monde. Ce sont les Jeux Olympiques à Paris, ne les oublions pas. Et ça peut être aussi l'Euro 2025 en France. La France est candidate et aura une réponse à l'automne prochain. Donc ça peut être un 2 plus 1, par exemple, comme ça. Mais quand on voit tout ce qu'il y a comme réaction aujourd'hui sur les réseaux sociaux et quand on voit qu'il y en a certains qui n'hésitent pas à dire qu'ils en ont marre, moi je les entends. Je les lis.
Il y a demi-finale, c'est un truc depuis 10 ans.
Mais tu me devances. Pour moi, il y a dernier carré. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Donc quelque part, avec ce groupe-là, a rajeuni, qui a pris de l'expérience, qui a gagné un peu en maturité, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, il y a peut-être aussi à revoir le fonctionnement, encore un peu, de Corinne Diacre, le staff de Corinne Diacre, quand tu vois le staff des Pays-Bas, le staff de l'Allemagne, le staff de l'Angleterre, mais tu prends peur, quoi. Tu prends peur par rapport au staff de l'équipe de France. Il y a plein de questions, il y a plein de sujets qui vont être abordés. Quand on voit l'été dernier ce qui s'est passé entre Noël Le Graët et Didier Deschamps, on était sur une élimination en 8e de finale. Là, on est sur une élimination en demi-finale.
C'est pas n'importe qui non plus, pas la Suisse par exemple, toute proportion gardée, face à l'Allemagne. Oui. Hein.
Bien sûr, mais Arnaud, il y a quand même un point important, c'est qu'effectivement la tendance est positive aujourd'hui pour Corinne Diacre. Elle va partir en vacances, il va y avoir des réunions, des discussions entre le président de la fédération, la sélectionneur qui est en fin de contrat. Peut-être qu'il y aura d'autres échanges informels aussi, peut-être avec le fameux Conseil des Sages, on ne sait pas. Ça, c'est possible aussi au sein de l'équipe de France, ces joueuses cadres, notamment Wendy Renard, Charlotte Bibot, Marion Torrent, Aïssa Toutounkara. Surtout, il y a ce fonctionnement à revoir, à parfaire, parce que là, il y a certes eu des progrès, c'est presque le jour et la nuit entre 2019, le Mondial en France, et aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de lacunes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller chercher cette finale. Alors qu'il y a des joueuses intrinsèquement qui, individuellement, font partie peut-être des meilleures du monde à leur poste. Et ça, on le rabâche depuis des années. C'est le cas, ça a été le cas avec certaines générations précédentes. Souvenez-vous de Camille Abili, notamment, de Amandine Henry quand elle était là, Sonia Bonpastor. Enfin, il y a eu énormément de très bonnes joueuses au sein de cette équipe de France. Mais ça n'est jamais allé assez loin. Et quand même, on est à 5 ans de mandat. Je le répète, 5 ans de mandat, elle a eu du temps pour construire, pour déconstruire dans un premier temps, puis pour reconstruire. L'avantage qu'a Corinne Diacre, c'est que les jeunes joueuses qu'elle a intégrées lui font pleinement confiance. Elles veulent continuer avec elle. Donc, ça sera à Noël Le Graët de trancher à un moment. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme il l'a dit à nos confrères de l'AFP, les cas des joueuses, les cas épineux des joueuses, il met un peu, il botte en touche. Ouais.
Merci beaucoup, messieurs. Rentrez bien avec plaisir. France. Retrouvez la bonne nourriture française, parce que parfois en Angleterre.
Ah, oui.
Je sais que Jeannot, autant le breakfast, ça va. Baguette. Autant le reste de la journée.
Alors après, sortie du breakfast, laisse tomber, c'est pas la peine. Ouais, effectivement, là-dessus, j'assume. Mais bon, il y a les vacances, ça va faire du bien, on va reposer un peu la machine.
Et revenez bien en forme pour une belle saison de football qui va s'ouvrir dans quelques jours avec la Ligue 1 et la Ligue 2 qui reprennent et la D1 Arkema. On ne l'oublie pas pour la D1 féminine. Merci, Anthony.
Ciao,
merci, Jeannot.
Ciao.
Tiens, Stephen, t'es avec nous, on va t'entendre sur Corinne Diacre, justement la sélectionneur, ou sélectionneuse, je sais jamais hein, comment il faut dire, la sélectionneuse de l'équipe de France sur cet euro qu'elle juge satisfaisant.
Tout n'est pas à jeter. C'est sûr que là, à l'instant T, la déception, elle prime, ça c'est sûr. On ne peut pas se satisfaire de perdre. Maintenant, on a construit des choses. Il y a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Voilà. Ce soir, c'était pas notre soir. Cette compétition, c'était peut-être pas la nôtre. La fondation est solide. Voilà. On a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique. Travailleurs et qui n'aiment pas perdre. Donc, c'est de bon augure pour la suite.
Un dernier carré. Il faut continuer avec Corinne Diacre, Stephen.
Déjà, la question pour moi ne se pose pas parce que c'est acté. À partir du moment où Noël Le Graët avait dit objectif demi-finale, objectif atteint, Corinne Diacre sera à la tête de l'équipe de France pour au moins 2 ans. Moi, j'ai envie de voir du positif dans cette compétition. On se rappelle dans quel état était cette équipe de France féminine il y a 2 ans, rongée par des guerres internes. On parlait plus du tout de sportifs. On parlait de Amandine Horry, de Le Sommer, de même Wendy Renard, qui avait eu quelques embrouilles avec la sélectionneuse. Aujourd'hui, il y a une vraie équipe solidaire autour de Corinne Diacre qui a su se rabibocher avec Wendy Renard, qui est devenue la
capitaine. Qui a changé sa communication.
Les jeunes joueuses vont sur le terrain à la guerre pour Corinne Diacre, donc moi pour ça c'est satisfaisant. Après, quand j'entends Anthony Reich nous dire qu'Amandine Henry c'est terminé avec Corinne Diacre sur le banc, on avait eu les mêmes débats avec Karim Benzema aussi, en disant tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, Karim Benzema ne reviendra pas sous le maillot bleu. Et ben on a vu que c'est pas vrai, parce que peut-être que Corinne Diacre est suffisamment intelligente, et je pense qu'elle l'est, pour peut-être se rendre compte que parfois il va y avoir des carences dans son équipe qui vont peut-être l'amener à faire table rase du passé, à faire un pas en avant pour Amandine Henry, et qu'Amandine Henry fasse un pas en avant aussi avec Corinne Diacre. Parce que l'important, c'est pas qu'il faut mettre les égos de côté, l'important c'est le sportif. Avec Amandine Henry, est-ce qu'on est meilleur? La réponse est oui. Alors bien sûr qu'il y a eu des choses qui sont passées, il faut faire table rase du passé, discuter pour améliorer cette équipe de France, mais aujourd'hui il y a une jeunesse qui est là, qui va encore progresser. On a découvert des joueuses fantastiques, Selma Bacha, Clara Matteo, qui vont encore progresser. La Coupe du Monde est en 2023, donc oui, c'est positif. Il y a forcément, quand vous êtes déçu de perdre en demi-finale, c'est bien.
C'est-à-dire qu'on a faim.
Exactement. C'est pas les discours de ah bah on est content, on a fait un beau parcours. Il y a de la déception, et ça c'est important pour une équipe de France de foot féminin. Alors oui, Corinne Diacre a des choses à corriger, parce que je la trouve un petit peu trop cassante, distante avec les journalistes dans sa manière de répondre. Elle mériterait d'être un peu plus avec nous, de jouer avec nous, d'avoir un peu plus le sourire. Mais elle est comme ça, donc je la trouve déjà changée. Elle peut encore faire mieux. Mais moi je trouve qu'il faut pas s'en séparer, parce que 5 ans, mine de rien, 5 ans, c'est pas énorme à la tête d'une équipe de France. Et quand on voit les progrès qu'elles font, donc repartons avec Corinne Diacre. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, mais moi je crois en Corinne Diacre, je crois en cette équipe de France.
Avec une Coupe du Monde dès l'année prochaine en Australie et Nouvelle-Zélande, et les Jeux Olympiques, puisque l'équipe de France féminine dispute bien les Jeux Olympiques. Là, il n'y a pas de restriction d'âge comme il peut y avoir chez les garçons. On vient dans un instant dans l'Intégral Sport. Il est 18h17. Florian Sotoca sera notre invité, l'attaquant du Racing Club de Lens. Et surtout, dans une demi-heure, invité exceptionnel, Esteban Ocon, le pilote Formule 1 de chez Alpine. Le 32-16 est ouvert, vous pouvez appeler pour poser vos questions à Esteban Ocon. On revient dans un instant avec Stephen Brun.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
18h20 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 20h avec Stephen Brun pour balayer l'actualité sportive à 20h. C'est l'after qui prendra le relais autour de Nicolas Paolorsi. Je vous le disais, dans une vingtaine de minutes, ouais, c'est un super invité, on est content de l'avoir. Esteban Ocon, pilote Formule 1 de chez Alpine, qui sera avec nous en direct un an après sa victoire en Hongrie. Le Grand Prix de Hongrie d'ailleurs à suivre à partir de samedi sur les antennes de RMC avec les qualifications et la course dimanche avec Jean-Luc Roy. Mais comme promis Stephen, on vous propose un entretien avec Florian Sotoca, l'attaquant du Racing Club de Lens, 3e saison de suite en Ligue 1 pour les 100 et or, la 4e pour Sotoca dans le Pas-de-Calais. Lens qui débutera sa saison dimanche 7 août à domicile à 15h contre Brest. Et c'est vrai que Sotoca est un des visages de cette plaisante équipe de Lens coachée par Franck Haise. Sotoca, joueur arrivé tardivement dans le monde professionnel. Un entretien pour RMC signé Benoît Boutron.
Florian Sotoca, attaquant du RC Lens et l'invité de l'Intégral Sport. Salut Florian.
Bonjour à tous.
Alors, 3e saison consécutive pour le Racing en Ligue 1. Vous avez terminé 2 fois 7e du championnat. La première saison, c'était la saison de la révélation. Voilà, on vous avait découvert, vous étiez la bonne surprise. La deuxième saison, plutôt celle de la confirmation. Là aussi, on vous voyait bien et vous avez bien terminé. Vous avez échoué à quelques points des places européennes. Quel va être le maître mot de la troisième alors? C'est quoi? La concrétisation, enfin, peut-être de la Coupe d'Europe pour l'heure s'élance.
C'est vrai que tout le monde nous parlait de la deuxième saison, comme quoi ça allait être encore plus difficile que la première, mais finalement on a fait encore mieux puisqu'on fait 5 points de plus. Donc voilà, pour nous, ça nous a permis de nous confirmer, d'avoir des joueurs qui ont gagné en valeur, que ce soit Joe Klaus, Cheikh Doucouré qui sont partis actuellement. Mais voilà, ça prouve que le club travaille bien. Et voilà, on veut rester dans ce qu'on sait faire. On veut faire le jeu qu'on a pratiqué lors des deux dernières saisons. On veut garder cet état d'esprit qui nous a permis de renverser des matchs. Donc voilà, tant qu'on gardera ça, je pense qu'on pourra faire encore une belle saison. Après, on sait que c'est une année particulière avec quatre descentes, avec la Coupe du Monde en plein milieu. Donc ouais. Voilà, on veut pas se prendre pour d'autres. On sait que on va avoir un début de championnat compliqué où les matchs vont s'enchaîner, mais c'est pour ça. Voilà, on se prépare bien. Je pense qu'il nous reste encore deux semaines de prépa pour bien peaufiner les derniers petits détails et être prêt pour le premier match face à Brest à la maison. Donc voilà, on sait que ça va être une année particulière, compliquée, mais voilà, je pense que tant qu'on gardera notre état d'esprit, je pense qu'on n'aura pas de soucis à se faire. Mais on sait que la Ligue 1 est compliquée, donc si on se repose un peu sur nos lauriers, on aura dur.
Alors justement, avant de revenir sur les ambitions et peut-être un objectif de place qu'on vous a fixé, parle-nous effectivement de cette saison particulière qui vous attend. Il y aura la Coupe du Monde qui va démarrer mi-novembre, ça fait une sacrée trêve pour vous. Il y a 4 descentes, tu l'as dit, parce que la Ligue 1 va passer à 18 clubs à l'issue de la saison. Est-ce que c'est une préparation différente ou est-ce que pour le moment, vous ne tenez pas forcément compte de tous ces ajustements, entre guillemets?
Bon, écoutez, pour le moment, voilà, on reste dans ce qu'on sait faire. On sait qu'on aura une nouvelle préparation à faire dans 3 mois, mais voilà, on s'occupe pas de ça. On s'occupe vraiment de la préparation qu'on est en train de vivre, et parce qu'on sait qu'on va avoir un début de championnat relevé. Donc voilà, on veut pas se projeter pour la suite. On veut vraiment rester concentré sur nous, sur nous-mêmes, et faire ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc voilà, le coach l'a dit, ça sera en jouant encore cette année qu'on passera par de bons résultats. Donc on va pas changer notre philosophie maintenant, puisque ça a très très bien marché sur les 2 dernières années, même si on a des départs importants. Mais oui, voilà, le club s'est vite renforcé, et c'est ça le plus important. Et en plus, il s'est vite et bien renforcé. Donc voilà, on veut perdurer. Les recrues se sont très bien intégrées. Donc on fait tous le maximum pour que ça se passe bien, et en tout cas pour le moment c'est le cas. Donc voilà, faut continuer comme ça, et voilà, pour la préparation en novembre-décembre, on n'y pense pas trop encore.
Ouais, d'accord. C'est effectivement, tu le disais, la conséquence de 2 bonnes saisons consécutives en Ligue 1, c'est que forcément les joueurs importants ont été convoités. Certains sont partis, tu l'as dit, Cheikh Doucouré est parti à Crystal Palace, Jonathan Clauss arrive à l'Olympique de Marseille, il y a d'autres joueurs qui sont convoités comme Seko Fofana. Comment on le vit quand on est joueur du RC Lens? On sait qu'effectivement les départs ont été compensés par des choix sportifs qui ont été réalisés. Il y a 2 attaquants qui arrivent notamment. Comment tu le vis, toi? Parce que c'est vrai que c'est un vestiaire qui vit très bien, quoi. Il y a une super ambiance entre vous. Est-ce que c'est difficile aussi de voir des cadres comme ça, des potes quitter le club après des belles saisons comme ça?
Ouais, c'est sûr que c'est difficile, puisqu'on a vécu 2 années extraordinaires. On sait l'importance de Cheikh et de Joe, mais voilà, le club avait tout prévu pratiquement, puisqu'on a en janvier déjà on avait eu l'arrivée de Pat Berg qui a pu bien s'intégrer pendant 6 mois. On a eu l'arrivée de Salis de Clermont, on a eu l'arrivée d'un petit jeune de Poreba qui fait ses preuves en préparation. Donc on a eu l'arrivée de Jimmy pour remplacer un peu Joe. Donc voilà, le club a très très bien travaillé pour préparer ses arrières, mais voilà, en tout cas, on veut garder vraiment cet état d'esprit qui fait notre force depuis 2 saisons. On sait que le club travaille beaucoup là-dessus par rapport au recrutement. Donc voilà, j'ai une totale confiance aux dirigeants et au staff pour mettre en place tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. Donc voilà, on veut continuer dans cet état d'esprit, dans notre schéma de jeu. Et en tout cas, voilà, il y a un lien fort qui s'est créé entre tout le monde, et je pense que ça se ressent sur le terrain. Donc voilà, nous de continuer de prendre du plaisir, c'est le plus important.
Flo, tu auras de la concurrence, on le disait, parce que Openda est arrivé en provenance du club Bruges, hein, un montant important, quasiment 10 millions d'euros d'investis par le Racing Club de Lens. Il y a également l'attaquant polonais Buxa qui lui débarque de MLS, il jouait au New England l'an passé. Comment tu prends ça, toi? C'est vrai que tu as une histoire particulière. Toi, tu as découvert la Ligue 1 sur le tard. Tu es très utilisé par ton coach Franck Hess. Tu as une relation particulière avec lui. Tu es utilisé à de nombreux postes. Comment tu vois l'arrivée comme ça de concurrent direct, entre guillemets?
Bon, écoutez, moi, voilà, je me prends pas la tête avec ça. Je préfère vivre au jour le jour. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai signé sur le tard professionnel. Mais voilà, j'arrive tous les jours, tous les matins avec la banane. J'ai toujours envie de progresser tous les jours au quotidien comme si c'était mon dernier entraînement. Donc voilà, je vis vraiment au jour le jour. Je me prends pas la tête avec ça. Si cette année je joue moins parce que je suis un peu moins performant, ben voilà, ça fait partie du football. En tout cas, voilà, je fais ma préparation, j'essaye de donner le maximum comme d'habitude, et après ça sera les choix du coach. Voilà, je respecterai toujours ça, mais c'est vrai que voilà, je vais m'accrocher, ça il faut en être certain. Et s'il faut encore jouer les 35-38 matchs, je les ferai avec grand plaisir. Donc, oui,
parce que voilà, on va. Je le disais, Florian, mais t'as quand même énormément joué sur les deux saisons qui viennent de s'écouler. 35 matchs la saison dernière, 6 buts, 3 passes décisives. 33 matchs la saison d'avant avec 8 buts et 3 passes décisives. Qu'est-ce que ça a changé à toi dans ta vie en termes de notoriété, en termes de partenaires, par exemple? Est-ce que tu as constaté un réel changement entre la Ligue 2 et la Ligue 1, par exemple?
Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Voilà, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de médiatisation aussi. On a plus de contacts, par exemple, avec tous les réseaux. Donc, avec mon équipe Manchester aussi, Puma, qui me suit tout le temps au quotidien. Donc, voilà, ça fait partie du travail. Ça fait partie d'un joueur professionnel. Donc, voilà, on prend ça avec beaucoup de plaisir. Moi, c'est presque tout nouveau pour moi puisque j'avais eu une aventure à Montpellier d'un an et demi, mais j'avais pas forcément beaucoup joué. Donc,
en même temps, coach Courbis voulait te faire jouer arrière droit, donc ça marchait pas.
Ouais, ça, c'était l'époque, ça.
Et le pire, c'est que c'est vrai.
Mais voilà, aujourd'hui, je me sens bien mentalement, physiquement, ça va très, très bien. Donc, voilà, je prends beaucoup de plaisir et ça, c'est le plus important. Donc, bon. Tant que je garderai ça, j'espère durer le plus longtemps possible.
Et tu as bien raison, hein. Prolonge le plaisir un maximum. On rappelle que tu as un contrat jusqu'en 2024 avec le RC Lens, Florian Sotoka, 31 ans. Et donc, cadre de ce vestiaire lensois, je rappelle qu'il y a ce match magnifique qui arrive, match amical contre l'Inter à Bollard samedi. Et puis ensuite, la reprise de la Ligue 1, une première journée pour vous, avec la réception du Stade Brestois. Hein. C'est bien ça, Florian, a priori.
C'est bien ça, ouais.
Avant
c'est
un déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio, le promu. Merci, Florian, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne continuation.
Bonne saison. Ciao, ciao.
Merci. Au revoir.
Et merci à Benoît Boutron pour cet entretien. Stephen Brun, il y a Olivier sur le hashtag RMC Live. Flo Sotoka, un mec en or. Magnifique souvenir au GF38 à Grenoble. Il en faudrait plus, des joueurs avec cette mentalité. On le sent, cette fraîcheur, cette passion. Ça illustre vraiment ce que dégage le Racing Club de Lens depuis deux saisons.
Ouais, super, super mec. Investi dans tous les clubs où il est passé. Il n'y a pas de secret. Hein, quand vous jouez 35 matchs sur une saison, 69 sur les deux dernières saisons cumulé, c'est que il n'y a pas que les stats, même si il fait des bonnes choses, c'est que coach Hez a entièrement confiance en Flo Sotoka pour faire les efforts devant. L'année dernière, c'était à côté de Kalimuendo. C'est un mec qui est intégré dans le système de jeu, qui convient parfaitement à Franck Hez, et puis c'est un mec qui a la tête sur les épaules. Il a les fils connectés dans la tête, et ça, c'est important aussi pour un coach, un garçon qui n'est pas pourri par ce foot business, qui n'est pas hors sol, qui a bien les pieds sur terre, et dans un groupe, c'est important dans un vestiaire d'avoir un Flo Sotoka, et même son discours est bien. Il n'y a pas d'aigreur sur les recrues qui sont arrivées, notamment le petit Openda qui est amené à prendre des minutes et qui a un vrai talent. Tu sens que Sotoka, que ça soit sur le banc ou que ça soit dans le 11 de départ, ce mec là il te donnera tout pour ton club, pour le maillot sans erreur et pour Bollard. Et c'est pour ça que Franquez a fait de Flo Sotoka un pilier de cette équipe du RC Lens.
Et premier match à suivre donc dans 10 jours pour le Racing Club de Lens, le dimanche 7 août dans le Multiplex sur RMC, dimanche 15h, avec la réception de Brest à Bollard. Nous revient dans un instant à parler Mercato Show et comme promis, dans 10 minutes, Esteban Ocon, le pilote Formule 1 Alpine, sera avec nous en direct dans l'Intégral Sport, en direct sur RMC, 18h30. On revient, dans même pas 3 minutes pour poursuivre cette émission jusqu'à 20h.
RMC, Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
Il est 18h33, on est toujours avec Stephen Brun pour l'Intégral Sport. On continue de parler football. C'est vrai qu'on a parlé des féminines et cette élimination hier. Florian Sotoka que vous venez d'entendre. Puis c'est le moment, c'est le Mercato.
Oui, les petites rumeurs à droite à gauche.
Et oui, toujours. Allez, Mercato Show tout de suite dans l'Intégral Sport.
Le Mercato Show.
Et on accueille Julien Boubnov de la rédaction de RMC Sport. Salut Julien.
Salut Arnaud, salut, salut Stéphane, Julien. Salut tout le monde.
Alors là, le gros dossier, c'est l'Olympique de Marseille, parce qu'évidemment, on se pose beaucoup de questions. Il y a déjà eu ce changement de coach avec le départ surprenant de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor. Évidemment, on attend un petit peu de mouvement du côté de l'effectif, avec plusieurs infos, plusieurs dossiers, et on cherche toujours ce fameux grand attaquant du côté de la Canebière.
Ouais, ça paraît compliqué, ça paraissait compliqué il y a quelques jours, mais aujourd'hui, selon La Provence, la piste Alexis Sanchez n'est pas totalement enterrée. Alors c'est un deal quand même, voilà, qui reste assez compliqué à faire. On rappelle son salaire actuel à l'Inter, 7 millions d'euros annuels, et il lui reste un an de contrat. Marseille n'a pas trop envie, ni les moyens pour racheter cette dernière de contrat. Donc il faudrait que le joueur puisse trouver un accord avec l'Inter pour se libérer. Et cette possible arrivée se ferait uniquement dans le cas où il y aurait des départs du côté de l'OM.
Alors c'est pas la première fois, Stéphane, que tu t'exprimes sur Alexis Sanchez, mais bon, là ça revient. Toujours persuadé que c'est pas forcément l'idée du siècle.
Ah si, l'idée est très bonne. L'idée est très bonne, Alexis Sanchez, fantastique joueur de foot. Mais je vois pas comment c'est réalisable en fait. Ils viennent de prendre Luis Suarez, ça veut dire qu'il faut dégager Bamba Dieng, ça veut dire qu'il faut dégager Cédric Bakambu, il faut dégraisser, il faut qu'Alexis Sanchez arrive à résilier son contrat parce qu'il lui reste encore un an de contrat avec l'Inter. L'association Milik Sanchez, elle me paraît plausible dans le jeu, parce que Sanchez peut s'excentrer un petit peu et partir de plus loin que Milik. C'est excitant, mais moi faut qu'on m'explique, hein. Alors Pablo, je sais que Pablo Longoria est un petit génie, s'il le fait, bravo. Et s'il le fait,
alors, peu importe le prix.
Peu importe le prix. Il faut avoir les moyens de le faire. Tu vas pas faire comme les joueurs dans le Bordeaux.
cramer la caisse.
Mais je suis curieux de voir comment c'est possible. Alors, bien sûr que c'est excitant, voir Alexis Sanchez en Ligue 1, à l'OM, parce qu'il a de quoi se mettre le Vélodrome dans la poche, hein, le petit Sanchez, parce qu'il a une vista, parce que c'est un fantastique joueur de foot.
Ce côté Quinta sud-américain.
Et bah oui, ça peut régaler le Vélodrome, ça peut régaler les ultras, et puis c'est excitant. C'est toujours excitant quand tu récupères des garçons comme ça, qui plus est dans notre championnat, mais qui plus est à l'OM. J'ai envie de voir. Écoute, alors j'y croyais pas, mais là, puisque ça revient forcément, je me dis pourquoi pas. Mais il y a quand même beaucoup de conditions pour voir Alexis Sanchez à la commanderie.
Et les départs, justement, Julien, Bamba Dieng, tu en as parlé, Stephen. Côté partant, il est cité.
Ouais, il est cité. L'international sénégalais n'entre clairement pas dans les plans d'Igor Tudor. Il n'a pas joué les deux derniers matchs de préparation. Et son coach a été clair avec lui. Il est désormais cinquième dans la hiérarchie des attaquants. Donc derrière Bakambu, derrière Milik, derrière Luis Suarez, t'en as parlé, Stephen, et derrière Dimitri Payet. Donc voilà, un départ de Bamba Dieng est plus que souhaité à l'OM.
Après, c'est peut-être le garçon qui a la plus grosse valeur marchande actuelle et qui est possible sur le départ. Donc est-ce que c'est une façon de lui mettre la pression en lui disant, c'est dur, hein, de t'entendre dire que t'es cinquième attaquant.
C'est une bonne saison.
Oui, c'est peut-être une façon de lui dire, écoute, on compte pas sur toi, il faut absolument que tu partes. Comme ça, nous, si on peut récupérer un petit peu d'oseille, on sera gagnant là-dessus. Mais voilà, écoute, maintenant c'est à Bamba Dieng de faire son choix, parce que l'OM, l'OM souhaite le voir partir, mais c'est quand même Bamba Dieng qui a la main sur la décision finale.
Et peut-être que Bamba triste.
La Bamba triste, t'as des belles références.
Merci Pierre Billon. Bon. Évidemment. Alors au niveau défensif, Julien, ça bouge aussi avec Luan Pérez qui part à Fenerbahçe et Pablo Longoria qui évidemment cherche activement un piston gauche et a relancé un dossier qui est plus que brûlant, Nuno Tavares.
Ouais, Arnaud, selon des médias italiens, le latéral gauche d'Arsenal pourrait finalement arriver à l'OM. On en parlait la semaine dernière, il était déjà dans la shortlist de Pablo Longoria plus tôt cet été, mais l'Atalanta Bergame était en avance sur le dossier. Ça s'est pas fait avec le club italien, les négociations ont échoué, donc l'OM pourrait peut-être en profiter. Arsenal aimerait un prêt sec, sans option d'achat, pour pouvoir retrouver son joueur l'été prochain. Et pour l'instant, les échanges entre les deux clubs sont en bonne voie.
On pourrait faire une Saliba, quelque part, prêté par Arsenal.
Oui. S'éclater à l'OM et puis repartir à Arsenal. Écoute, c'est un joueur correct, hein, international portugais, 22 ans. Là encore, on est sur du sûr.
On voit que sportivement, ça avait été gagnant pour Saliba, donc pourquoi pas également avec Nuno Tavares. Direction grand ennemi de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. Ça commence également à bouger. Il y aura le trophée des champions à suivre dimanche à 20h contre Nantes depuis Tel Aviv en Israël. Match évidemment à commenter en intégralité sur RMC. Et on parlait hier de Jorginho Wijnaldum qui se dirigerait vers la Roma. Et aujourd'hui, deux autres joueurs pourraient quitter la capitale prochainement, Julien. Et le premier, c'est un milieu de terrain où il y a embouteillage.
Ouais, effectivement, c'est Idrissa Gueye qui pourrait retourner en Angleterre dans son ancien club à Everton. Selon nos confrères de l'équipe, des premiers contacts ont eu lieu entre les Toffees et l'international sénégalais. Gueye a fait savoir qu'il souhaitait quand même honorer sa dernière année de contrat au PSG. C'est pour ça qu'il avait refusé Galatasaray il y a quelques jours. Mais le fait que ce soit Everton, ça peut-être le faire réfléchir. En tout cas, la direction parisienne ne sera pas opposée à un départ sans pour autant brader le joueur.
Et l'autre joueur concerné, c'est Thilo Kehrer, le défenseur qui, lui, pourrait s'envoler vers l'Espagne.
Ouais, et même dans un grand Espagne, hein, puisqu'il est dans le viseur de Séville. Il est même d'ailleurs la priorité numéro 1 du club andalou pour remplacer Jules Koundé, qui, lui, part au FC Barcelone. Alors, il en manque de temps de jeu à Paris. Il est un peu poussé vers la sortie. Il n'a plus qu'un an de contrat. On peut penser quand même que ça ressemble au deal idéal, hein, pour les Parisiens et pour le joueur aussi, d'ailleurs, qui souhaite jouer davantage avec l'objectif Coupe du Monde en fin d'année.
C'est vrai, Stéphane Brun, que ça fait plusieurs saisons qu'on attend quand même Paris au tournant sur ces fameuses ventes. Hein.
Oui, oui. Alors c'est toutes ces rumeurs là maintenant du côté du Paris Saint-Germain et des joueurs qu'on a vraiment envie de voir ailleurs avec des gros salaires. Les rumeurs, on en a entendu des centaines et des centaines. À un moment donné, moi, je veux du concret. Hein. Je veux du concret pour pouvoir que le Paris Saint-Germain aussi puisse dégraisser. Maintenant, Idrissa Gueye, pour moi, ça me paraît compliqué pour lui de rester en France après ce qui a pu se passer la saison dernière. Donc le départ inéluctable. Thilo Kehrer aussi, parce que je vois pas comment il pourrait continuer à jouer au foot au Paris Saint-Germain avec l'équipe et le roster qu'il y a du côté du PSG. Donc écoute, Thilo Kehrer, qui est pas forcément un mauvais joueur, je pense que sa cote elle est effectivement bonne.
International.
Exactement, international. Donc pourquoi pas maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que les rumeurs, on en a un petit peu marre, on a envie de voir un fax qui arrive en disant voilà, accord de transfert et le RIB et l'IBAN est envoyé et on a la preuve du versement du transfert.
Rapidement, l'autre feuilleton de l'été qui alimente beaucoup de rumeurs, Julien, c'est Cristiano Ronaldo avec Manchester United.
Ouais, c'est un bras de fer maintenant qui dure depuis plusieurs semaines et la situation devient quand même très très pesante en Angleterre. Hier, on sait qu'il y a eu une réunion entre le Portugais, Jorge Mendes, son agent et son nouvel entraîneur Eric Ten Hag pour parler de son avenir. Mais les deux camps restent sur leur position. Manchester ne veut pas le vendre, Cristiano veut partir et selon plusieurs médias britanniques, il aurait même demandé à être libéré de sa dernière année de contrat avec les Red Devils. Après, le problème pour Cristiano, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prétendants qui se bousculent pour l'accueillir. Quelques clubs étaient considérés comme des possibles destinations, Chelsea, le Bayern, mais pour l'instant, on est quand même dans une impasse.
Merci Julien Boubneuf de la rédaction de RMC Sport pour toutes ces informations Mercato. On revient dans un instant. Esteban Ocon, le pilote alpine de Formule 1, sera avec nous un an après sa victoire en Hongrie. C'est, oui, le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix. C'est aussi le premier Français au classement des pilotes. Il sera avec nous dans un instant et dans moins d'une minute trente. On revient et on accueillera également Jean-Luc Roy.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
8h44, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h, toujours avec Stéphane Brun de la Dream Team RMC Sport. On accueille un autre membre de la Dream Team puisque demain débute le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. C'est ce Grand Prix avant la fameuse pause estivale de 4 semaines. Rendez-vous au Hungaroring pour cette 13e manche du championnat du monde. Et Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Arnaud, salut Stéphane.
Salut
et bonjour à tous.
Jean-Luc.
Et on a l'immense plaisir d'accueillir un invité exceptionnel. Il est, c'est vrai, le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. C'était il y a un an juste pour jour. C'est un an jour pour jour. Qui plus est, au volant d'une voiture française, l'Alpine, Esteban Ocon est en direct sur RMC. Bonjour Esteban.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tout le monde.
Salut Esteban.
Merci beaucoup d'être
Salut
avec
Esteban.
Nous. Alors c'est vrai que ce 1er août 2021 est une date gravée à jamais avec ce Grand Prix remporté. Esteban, là au moment d'arriver, de retrouver ce Hungaroring, est-ce qu'on y pense encore à ce moment magnifique vécu il y a un an ?
Bah, il y a beaucoup d'émotions forcément qui reviennent, beaucoup de très beaux souvenirs quand on passe les grilles du circuit, forcément tout on commence à tout se rappeler, il y a des petits flashs voilà qui reviennent de l'année dernière. C'est passé très vite forcément cette année, on a été très occupés. Mais voilà, c'est derrière nous maintenant, il faut voir le futur et puis en avoir encore de belles victoires par la suite.
Esteban, on t'a eu la semaine dernière avant le Grand Prix de France. T'étais excité, tu venais de faire 5e en Autriche, t'avais beaucoup de, t'étais ambitieux pour le Grand Prix de France, finalement 8e. Alors encore une fois dans les points, mais est-ce que 8e, malgré tout, c'est pas une petite déception pour toi ?
Bah, c'est pas le meilleur résultat, mais c'était très bon de continuer à scorer, continuer à marquer de bons points pour moi, pour l'équipe. Ce qu'il faut pour l'instant, hein, c'est qu'on finisse devant McLaren. Il faut qu'on voilà, les battre au championnat constructeur. Et puis pour moi, voilà, il y a aussi un beau challenge au championnat individuel, hein, mais pour l'instant on n'est pas encore au niveau de Mercedes, Ferrari ou Red Bull, donc il nous reste encore forcément du travail, mais s'il y a des opportunités, on sera toujours là pour les prendre.
Vous êtes passé devant justement McLaren au classement des constructeurs avec ce Grand Prix de France. Vous êtes quatrième, 93 points, 4 points d'avance. Il reste dimanche, évidemment. J'imagine que l'objectif, c'est de garder cette quatrième place. Et tu commençais un petit peu à en parler. À titre individuel, il y a Lando Norris, ce pilote McLaren, qui est septième avec 14 points devant au classement des pilotes. C'est un petit objectif fixé d'aller le chercher sur cette deuxième partie de saison?
Oui, c'est clair que c'est un objectif, hein, pour nous de le rattraper au championnat pilote. C'est clair que on va se battre tout au long de la saison avec ces McLaren. Ça va être la guerre jusqu'à la fin. Donc oui, c'est un objectif qu'on peut réaliser. C'est faisable. Mais voilà, c'est un gars qui met du gaz, on le connaît très bien. Et puis c'est une équipe qui a énormément progressé aussi au Paul Ricard, on l'a vu. Donc voilà, ça va être une tâche difficile, mais on est prêt à la relever.
Et on n'oublie pas que Esteban a déjà fait top 8, c'était au volant d'une Force India, hein, en 2017, à l'issue de la saison, évidemment. Une question de Jean-Luc Roy.
Oui, ben j'en ai plusieurs. Bon, Esteban, je voudrais déjà... Oui, tu sais, moi une, c'est pas possible. Déjà, savoir comment tu collabores avec Fernando Alonso, qui est maintenant, bon, évidemment, le pilote le plus expérimenté, qui est un monstre, double champion du monde. Comment ça se passe entre vous? On a coutume de dire, évidemment, que le premier adversaire, c'est son équipier. Quel équipier? Donc j'imagine qu'éventuellement, pour toi, le fait d'être à son niveau et même devant, hein, puisqu'au classement général, au championnat, tu comptes presque 20 points d'avance... C'est déjà une satisfaction. Comment vous bossez ensemble? Est-ce que vous échangez toutes les données? Comment ça se passe?
Bien sûr. Non, on a beaucoup de points en commun, en fait, entre moi et Fernando. On travaille vraiment, dur d'arrache-pied pour pouvoir faire progresser cette voiture. On sait qu'on est pas encore au niveau pour faire des podiums ou des victoires à toutes les courses, donc il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on crée des débats avec l'équipe, qu'on trouve des solutions pour progresser tout au long de ces années où on va travailler ensemble, donc tout va bien, on s'entend super bien ensemble, et puis on a, comme je l'ai dit, beaucoup de points en commun. Il fait vraiment tout pour la course et moi aussi.
Clairement, toi, tu souhaiterais évidemment qu'il reste avec toi chez Alpine. Toi, tu as un contrat jusqu'à fin 2024, hein, on le rappelle.
Moi, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. C'est pas moi qui décide de tout ça pour l'équipe. Ça reste du côté de Laurent Rossi et d'Otmar Szafnauer. Mais en tout cas, on fait du très bon boulot ensemble pour l'instant. C'est clair que Oscar et Fernando, ils méritent d'être en F1. Donc on verra par la suite. C'est pas à moi de décider ça, en tout cas.
Esteban Ocon est notre invité exceptionnel, 18h49 sur RMC dans l'Intégral Sport. On est avec Stephen Brun, on est avec Jean-Luc Roy. Esteban, est-ce qu'il y a une bonne sensation? En tout cas, c'est ce que nous, quand on voit les Grands Prix et qu'on suit avec Jean-Luc au commentaire, on voit évidemment la régularité, aussi bien Fernando là qui prend des points à chaque course. Toi, il y a cet abandon à Silverstone qui a peut-être cassé un petit peu cette dynamique de points que vous prenez Grand Prix sur Grand Prix. On voit aussi qu'il y a eu toute cette nouvelle réglementation avec ces nouvelles voitures à appréhender. Est-ce qu'il y avait bien vraiment de bonnes sensations là chez Alpine pour terminer les 10 grands prix qui restent d'ici la fin de saison?
Oui, bien sûr, on est je pense dans un très bon moment de belle progression. Si on nous avait dit qu'on serait à ce niveau de performance après l'hiver, clairement on aurait pris, hein. Pour moi, depuis le début de l'année, Alpine, c'est vraiment l'équipe qui a progressé le plus de toutes les équipes autour de nous. Donc non, on fait du bon travail. L'équipe délivre des petites améliorations. L'équipe a beaucoup d'idées, que ce soit à Viry et à Enstone. On amène des pièces constamment. C'est très bien organisé avec la limitation de budget qu'il y a pour l'année. Certaines équipes ont déjà peut-être trop dépensé tôt dans l'année, et puis nous, on a encore beaucoup de choses hyper sympathiques à venir, donc non, c'est pas fini, et je pense que vous allez encore entendre parler d'Alpine sur le reste de l'année.
En France, on sait maîtriser l'inflation. Stephen.
Esteban, on a appris qu'un quadruple champion du monde allait tirer sa révérence, Sébastien Vettel. Est-ce que c'est un coureur qui t'a inspiré, que tu respectes? Dis-nous ce que tu penses de la carrière de Sébastien Vettel.
Qui était sur le podium en Hongrie, qui avait fait deuxième, oui. Quand Esteban...
Qui n'avait pas réussi à te doubler, d'ailleurs.
Ouais, c'est une triste nouvelle de voir Seb partir. C'est quelqu'un... vraiment de très gentil à l'extérieur de la piste. C'est quelqu'un qui était proche de nous tous, on va dire, hein. Tous les pilotes, ils prenaient vraiment à cœur de nous défendre quand il y avait des choses sur la sécurité, des choses où il était un petit peu concerné par le fait. Donc c'est quelqu'un qui va nous manquer. J'espère qu'il va pas être trop loin du paddock, en tout cas par la suite.
Je crois qu'on a vu un briefing des pilotes un petit peu tendu où il avait claqué la porte, notamment Sébastien Vettel récemment. Tiens, Alice a composé le 32-16. Bonjour Alice.
Oui, bonjour.
Tu nous appelles d'où, Alice?
Je vous appelle de Paris.
Ah, je pensais qu'elle appelait du Pays des Merveilles.
Et non, raté, Stephen.
On l'a jamais fait.
Eh bien, Alice, Esteban Ocon. Esteban Ocon est avec nous, même s'il valide pas la blague. Alice, tu peux poser ta question à notre pilote de Formule 1 chez Alpine.
Bah, écoutez, bonjour Esteban. Enchanté.
Bonjour Alice.
Oui, j'ai une question. Donc, il y a un nouveau règlement cette année qui a entre autres été fait pour que les voitures se suivent mieux. Et moi, je voulais un peu avoir votre ressenti de pilote. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que vous avez toujours vraiment besoin des zones DRS pour doubler?
C'est une très bonne question, Alice. Et c'est clair que les voitures, en fait, ont vraiment été simplifiées aérodynamiquement pour pouvoir suivre de plus près et pour qu'il y ait plus de batailles en piste. Donc malheureusement non, on a toujours besoin du DRS pour dépasser, parce que l'effet en fait a diminué l'aspiration. Donc l'aspiration, c'est quand t'es derrière une autre voiture et que tu la rattrapes parce que t'as moins d'air qui arrive de la voiture de devant. Donc ça c'est réduit comparé aux années précédentes, mais en tout cas c'est plus facile de se suivre, donc on arrive à être plus proches les uns des autres. Donc ça c'est très bien, et c'est pour ça que je pense il y a des grosses batailles, comme on a vu à Jeddah, comme on a vu à Silverstone, où il y avait toutes les voitures groupées. Enfin, c'est vraiment vraiment sympa à voir, en tout cas.
Merci beaucoup Esteban Ocon, merci beaucoup Alice pour ta question.
Esteban, la prochaine fois que tu croises Jean-Luc Roy sur un circuit, file-lui deux trois chemises, parce que je pense que c'est le journaliste F1 le moins bien sapé qui existe.
Ne réponds pas Esteban, ne réponds pas à ce provocateur.
Jean-Luc, t'es très bien habillé, t'en fais pas.
Merci beaucoup Esteban, on te suivra ce week-end pour ton 102e départ en Grand Prix de Formule 1, et on te souhaite évidemment la même issue que l'année dernière, hein. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Esteban Ocon qui était avec nous en direct dans l'Intégral Sport. Jean-Luc, tu restes avec nous, évidemment.
Oui.
On aurait aimé toute une heure passée avec Esteban, mais revenir quand même sur cette annonce de Sébastien Vettel, un quadruple champion du monde. Il y en a quand même pas beaucoup dans l'histoire de la Formule 1. C'est évidemment une page qui se tourne, et on le sentait un petit peu venir, au-delà du fait que l'Aston Martin n'était pas forcément aussi compétitif qu'il l'aurait souhaité, mais on sentait peut-être une forme aussi de lassitude de Sébastien Vettel, qui est également préoccupé beaucoup par des questions environnementales.
Bah écoute, effectivement, on sent une espèce de maturation de l'homme, hein, au-delà du pilote. Le pilote, tu l'as évoqué, avec ses 4 titres de champion du monde d'affilée. Après, il s'est lancé dans des challenges très élevés, notamment chez Ferrari. Bon, il n'a pas réussi, évidemment, il a gagné les courses, hein, mais il n'a pas réussi à ramener le titre pour Ferrari, comme Fernando Alonso. D'ailleurs, le parallèle est assez étonnant entre ex-champions du monde qui n'ont pas réussi à concrétiser. C'est sûr, ce que disait Esteban, c'est une perte, hein, c'est quelqu'un qui avait une influence assez importante dans le paddock, qui était écouté. Et effectivement, on le sentait un peu se chercher, même sur les questions environnementales, alors qu'on sait que la Formule 1 travaille beaucoup là-dessus, et qu'un carburant entièrement de synthèse devrait apparaître bientôt. C'est tout l'objet des discussions actuelles avec les motoristes, hein, et ils vont y parvenir. Parce que d'ailleurs, je crois que la Formule 1 a l'idée de l'imposer totalement en 2026, c'est vraiment demain en termes technologiques. Donc je pense que Esteban, oui, avait peut-être un peu de mal à garder sa motivation. Tu as parlé des résultats aussi. Cette équipe Aston Martin, elle en est loin pour le moment. C'est vrai qu'il aurait gagné des courses, ou tout au moins monté sur les podiums régulièrement. Eh bien, peut-être qu'il serait encore resté, parce qu'en plus, il avait un contrat qu'il attendait, hein, du côté d'Aston Martin. Je pense que Aston va perdre beaucoup. Je ne sais pas. Là, il va y avoir le jeu classique, tu sais, des chaises musicales.
Hein. Eh oui, ce fameux mois d'août. Hein.
Et voilà, exactement, la silly season qui va démarrer, parce que là, c'est un gros pion, effectivement, qui se libère. Donc, une place.
Et on parle déjà de Mick Schumacher qui fait plutôt une bonne saison avec Haas, une Haas très compétitive cette année. On parle déjà de Mick Schumacher pour se baquer chez Aston Martin.
Alors, là, j'ai pas de conseil à donner aux dirigeants d'Aston Martin. Le problème, le seul problème que je vois pour Mick Schumacher, c'est pas du tout une histoire de talent, c'est une question d'expérience. Parce que Lance Stroll, évidemment, le fils du patron, hein, tout le monde le
sait. C'est pas évident,
de,
oui.
Voilà. De mettre deux jeunes loups comme ça, et puis on a vu que on pouvait se frictionner avec Mazepin, l'ambiance était pas terrible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça va mieux avec Magnussen, qui est pourtant beaucoup plus coriace que Mazepin. Mais c'est une question de génération. Et là, enfin, personnellement, je crains qu'avec deux jeunes loups comme ça, ensemble, ce soit pas la meilleure solution, ni pour faire évoluer la voiture. Alors évidemment, après, donner des conseils, c'est toujours un peu facile, mais surtout pour succéder à quelqu'un du calibre de Vettel, qui avait un métier, une expérience formidable. À mon sens, il faut quelqu'un d'un peu plus capé, et je crains même que ce soit pas forcément un cadeau ou un cadeau empoisonné. Alors, tu vas me dire, As, bien sûr, As n'a pas les moyens, As se débat en fond de grille, etc. Mais il faut reconnaître que cette année, Aston, avec des moyens beaucoup plus important, n'est pas beaucoup, beaucoup mieux placé. Hein. Très sincèrement, c'est pas très convaincant. Parce que Haas totalise 34 points et Aston Martin 19, tu vois. Donc c'est un peu paradoxal.
Avec un moteur Mercedes pour Aston Martin et un moteur Ferrari pour Haas.
Exactement, exactement.
Une question de Stephen.
Non, Jean-Luc, on va parler totalement autre chose. Ces derniers jours, j'ai découvert la personnalité d'un garçon que je trouverais très froid, qui m'avait l'air sans charisme, c'est Valtteri Bottas, que j'ai vu sur les routes du Tour de France pour ravitailler sa compagne Tiffany Cromwell. Je l'ai vu avec un bob Justin Bridoux, il m'a régalé. Est-ce que toi, t'avais cette image-là de Valtteri Bottas ou t'avais la même image que moi?
Alors écoute, tu sais, ça c'est des histoires déjà de communication d'écurie, parce que Mercedes, ben, c'est un rouleau compresseur monstrueux, et puis tu sais que toute sa carrière a été jusque-là rythmée par des contrats d'un an, Alors là aussi, moi je trouvais même ça monstrueux, j'y vais carrément de la part de Toto Wolff, de même pas lui faire confiance et lui signer un contrat de 2 ans, donc il était sur un baquet éjectable, ben, la tension, la pression, il la ressentait tout le temps. Là on lui fait confiance, Fred Vasseur lui fait une totale confiance chez Alfa Romeo, c'est plus le même homme, là il est soulagé. On compte sur lui, il obtient des résultats. Tu sais très bien, toi qui nageais, que la confiance de ton entourage, c'est absolument primordial. Et là, je pense que la manière dont Mercedes s'est comporté avec Valtteri Bottas, ben, ça avait pour résultat un peu de le lobotomiser, plus les consignes de communication. Là, il est libre, Max, en l'occurrence Valtteri. Effectivement, ça m'étonne pas. Je pense que c'est.
Puis c'est un petit peu aussi les Finlandais dans leur nature. On pense Kimi Raikkonen aussi, Mika Häkkinen aussi, on s'entend. Voilà. Pouvait paraître assez froid, alors que ce sont des joyeux lurons, hein.
Exactement, je peux te parler de Mika Häkkinen. Alors, je l'ai vraiment très très bien connu. Juste avant ses titres et pendant ses titres, c'était pas du tout le même homme. Ils ont toujours cette image évidemment très très lisse en termes de communication parce qu'ils se protègent. Mais en privé, Häkkinen, pardonnez-moi l'expression, mais c'était un déconneur de première. Hein, il n'arrêtait pas. Et pourtant, c'est pas du tout l'image qu'il avait à l'époque.
Par contre, Jean-Luc, il faut que je revienne sur tes propos il y a une quarantaine de secondes quand tu m'as dit, bah, Stephen, t'as connu ça, toi qui nageais, tu m'as confondu avec.
Et Florent Manidou.
Tu m'as confondu
au moment où je l'ai dit, j'ai dit il va pas relever quand même, il va pas me mettre la tête sous l'eau. Et ben,
bah si, il a fait le grand yeux, Jean-Luc.
Bon, hein. Et tu sais nager quand même, Stephen, quand tu joues sur les mots.
L'avantage, c'est que j'ai pied partout, donc.
Bon, d'accord. Et t'as pas besoin d'un canard quand même pour nager.
Non. Bon, merci
toi
beaucoup.
Qui tapait dans la balle. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Luc Roy. Toujours un plaisir. On te retrouve ce week-end, samedi et dimanche, pour les qualifications et le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie.
Sur le tourniquet hongrois, hein, c'est le surnom. Ça va faire plaisir à Stephen. Le tourniquet hongrois.
Ah ouais, le Hungaroring, ça.
Tourniquet hongrois, ça peut être le nom d'une boîte de nuit aussi.
Budapest, effectivement.
Je te laisse la responsabilité du reste.
Merci Jean-Luc, on était heureux de t'avoir, comme on était heureux d'avoir Esteban Ocon dans l'Intégral Sport. Nous, on revient jusqu'à 20h. On va parler de Ligue 2. Ça reprend ce week-end avec nos deux monuments du football français, l'AS Saint-Etienne qui démarre à 15h samedi. Et à 19h, ce sera les Girondins de Bordeaux, sauvés hier par le comité exécutif de la fédération. On vous dit tout sur ces deux dossiers. Et on revient tout de suite dans l'Intégral Sport jusqu'à 20h avec Stéphane Brun.
RMC Intégral Sport.